Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Différence. Radio & Co.
Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Christian pour animer cet épisode. Et pour commencer, je suis accompagné par Marc.
Bonjour.
Par Thomas.
Bonjour Christian.
Et par Luc.
Bonjour.
Merci à vous trois, Milan et Sébastien. On ne les entend pas, mais ils sont avec nous en technique. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec notre invité de son parcours et de sport, beaucoup, notamment de la natation. Il s'agit de Julien Darco. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et merci à toi d'être avec nous. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Bonjour, donc je m'appelle Julien, j'ai 35 ans, je suis vieux. Je suis maître nageur et voilà.
Quel est votre parcours ?
Ok, mon parcours professionnel, tu veux dire ?
Oui.
Ok. Alors, je vais essayer de faire simple. Donc, j'ai commencé par faire des études d'ergothérapie. J'ai arrêté en deux ou troisième année parce que j'ai su que j'étais dyspraxique. Et du coup, j'ai pas pu valider tout ce qui était hors test. Hein, c'était très compliqué. Puis même sur l'autonomie, c'était pas vraiment. Enfin, voilà, c'était compliqué. J'étais à Paris tout seul, donc c'était un peu. Voilà. Donc, j'ai dû arrêter ça. Après. J'ai fait une formation de maître nageur, donc à Auray en Bretagne. Et ensuite, j'ai fait une formation de moniteur éducateur en apprentissage. Donc j'étais 2 ans en IME. Donc j'accompagnais là des personnes sur les activités piscines, c'est normal. Enfin, ils m'étaient là parce que c'était pertinent. Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu comme maître nageur dans des piscines municipales avant de monter une auto-entreprise. Où là j'accompagnais des personnes en situation de handicap, donc beaucoup, surtout sur les troubles du neurodéveloppement. Des fois c'était aussi des personnes, c'était un peu plus rare, mais qui avaient fait un AVC ou voilà. Bon, ça je l'ai fait 1 an. Après je suis allé en région toulousaine. Voilà, j'ai travaillé 2 ans dans un centre pédiatrique qui a dû fermer pour des raisons pour plusieurs raisons, dont la crise Covid aussi. Et ensuite, là, je suis actuellement dans un centre thermal, dans le Gers. Et en parallèle, je continue toujours mon auto-entreprise. Donc, même si là, je suis un petit peu moins actif que d'habitude. Et important, parce que je suis bénévole à Dyspraxie France 10, quand même. Voilà. Donc, je suis content. C'est toujours un plaisir de participer à des émissions sur des initiatives comme ça. Enfin, voilà, je trouve ça... Merci à Lucas et sa maman de m'avoir permis de découvrir ce lieu, je trouve ça intéressant.
Pourriez-vous nous présenter la structure Handisport ?
Alors Handisport, c'est quelque chose, pour faire simple, hein, quand t'es dyspraxique, moi j'ai plusieurs troubles du neurodéveloppement et des fois c'est un peu, je pense qu'on est entre nous et dans le milieu du travail des fois c'est un peu dur, et puis même sur, moi j'ai compris qu'à 30 heures c'était bien en fait. Pour tout ce qui est compensation, fatigue, etc. Je trouvais qu'en tant que dyspraxie, travailler en 30 heures, c'était bien. Et à un moment donné, j'étais à 35 heures, j'arrivais plus, je me suis dit, j'ai envie de faire ce que j'aime un petit peu. Et honnêtement, accompagner des personnes en situation de handicap par la natation, surtout ayant des troubles du neurodéveloppement, ça a toujours été ce que j'ai voulu faire, en fait. C'est-à-dire, même en ergothérapie, je voulais faire des choses comme ça, même en tant que moniteur éducateur, c'est ce que je fais. Enfin, donc j'ai voulu mettre ça en place. Au début, j'ai cherché des partenariats. Et en fait, je me suis rendu compte que. Alors, j'ai toujours eu des partenariats avec tout ce qui est mieux. Par exemple, il y avait des CESAD. Je suis de la région lorientaise. Des CESAD de Lorient, il y avait des organismes comme ça avec qui je faisais des petites prestations de temps en temps. Aussi, j'allais sur des clubs de triathlon, je faisais intervenir des personnes. Qui avait par exemple une trisomie 21 au club de triathlon pour l'inclusion. Enfin, j'étais un peu libre et c'était très bien. Et voilà, donc c'était un peu dans l'idée de montrer un peu mon approche et d'être libre. Et aussi, je me suis rendu compte que malheureusement, à travers cet accompagnement et les parents qui m'appelaient, y a l'handisport, il y a le sport adapté. Mais les personnes ayant des troubles du neurodéveloppement, des handicaps invisibles, alors qu'en plus, ce qui m'a un peu interloqué, c'est que la dyspraxie, par exemple, dans le monde du sport, c'est pas tant que ça reconnu, accompagné en fait. Et alors, faut savoir aussi que bon. Alors, ce que je ne vous ai pas dit au parcours, c'est que j'ai aussi fait des formations pendant le Covid, parce que je m'ennuyais, au CHU de Tours sur l'autisme. Donc voilà, donc j'avais appris qu'à ce moment-là, tu pourrais être dyspraxique et autiste, par exemple. Enfin, il y a tout le spectre d'autisme. Donc, bref. En tout cas, la dyspraxie qui est souvent présente, quand elle est isolée, pas de prise en compte. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que il y avait un vrai besoin des familles d'accompagnement sur ces sujets-là par rapport au sport. Donc moi, ça me passionne parce que, en fait, ce qui me passionne, c'est que je vois un impact direct de la natation, en l'occurrence, sur ces personnes, en fait. C'est-à-dire que la natation est une activité. Pour moi, c'est le graal de c'est le graal de l'activité adaptée, en fait. Dans le sens où c'est une activité où tu peux un peu adapter un peu tout, en fait. Enfin, une personne, alors ça va de la personne qui a pas de jambes, elle peut nager sans jambes, à la personne qui est dyspraxique, bon, c'est un peu c'est compliqué hein, de nager, surtout la brasse, et ça dépend encore, on est tous différents. Mais voilà, c'est quelque chose que tu peux adapter, enfin, c'est une activité que tu peux adapter partout, et du coup, ce que je trouvais génial, c'est que c'est concret. Moi, perso, en tant que personne ayant TDC, parce que maintenant on dit TDC, j'en ai vu des gens qui m'ont parlé, et en final, c'est un peu chose que je veux dire, et je leur jette pas la pierre, mais me parler, ça servait pas grand-chose. Ce que je veux dire, et le fait d'aller nager, pour coup, ça me servait énormément. Et pour les autres personnes, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de concret, c'est-à-dire d'activités qui nous procurent un bien-être direct. Et puis en plus, après, moi, je trouve qu'il peut y avoir du partage dans la natation parce que c'est quelque chose d'apaisant. Et donc, voilà. Donc, handisport, ça partait un peu de ce constat-là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Des fois, je pars dans des trucs. Excusez-moi. Mais ça partait de ce constat-là. C'est-à-dire que j'ai une activité qui, moi, me passionne. Et c'est une activité qui peut apporter beaucoup. Et surtout aux personnes TDC et autres troubles du neurodéveloppement. Et du coup, voilà, je vais essayer de mettre ça en place parce que ça va me passionner et ça va apporter des choses aux autres personnes. Donc encore une fois, après, je l'ai fait qu'un an tout seul parce que je suis pas tout ce qui est administratif et tout, ça me panique un peu. Donc déjà l'auto-entreprise, j'ai un peu galéré à la mettre en place, voilà. Mais dans les faits, je regrette pas du tout de l'avoir monté, ne serait-ce pour toutes les rencontres qui ont été faites sur le plan humain, et j'espère que en dehors de handisport, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai appelé handisport parce que j'ai essayé de me greffer à d'autres assos que je citerai pas et j'ai jamais réussi en tout cas que le TDC soit pris au sérieux dans l'impact que ça peut avoir, surtout sur l'activité sportive. Et du coup, moi, j'espère que je pense que c'est en bonne voie parce qu'on est un peu avec DFD, des petites ouvertures là. À l'avenir, ça sera reconnu à la fois que le TDC, que l'impact et que les bénéfices du sport pour les personnes ayant un trouble du neurodéveloppement en général soient pris en compte. Et l'aspect de la natation, qu'on mesure à quel point la natation, je parle pas sur le plan compétitif, mais sur le plan bien-être, parce que bien souvent, on oublie le plan bien-être, alors que c'est, c'est ça qui est important pour moi. Donc sur le plan bien-être, qu'on mesure l'impact que peut avoir la natation sur les troubles du neurodéveloppement. Et je vais ajouter un autre truc aussi, quelque chose que moi j'ai découvert comme ça, c'était pas... Sur le plan sécurité, c'est important, parce qu'au final, ça, il y a des études qui ont été faites, surtout aux États-Unis. En fait, la noyade, c'est une des premières causes de mortalité pour les personnes ayant des troubles du neurodéveloppement, notamment pour les personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme. Parce qu'en fait, quand ils vont aller dans une piscine c'est ultra bruyant, il y a beaucoup de monde, donc si tu as des hypersensibilités, s'il y a beaucoup de monde, ça peut être compliqué. Donc voilà. Et du coup, ils n'ont pas forcément accès et pas forcément au club, même si bon, il y a des clubs qui font preuve d'inclusion, hein, mais certains n'y ont pas accès et du coup ils pratiquent pas. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose qui attire pas mal de ces enfants ou jeunes adultes, etc., alors qu'ils savent pas nager. Donc du coup, moi, c'est mon interprétation. Et du coup, voilà, il y a aussi un petit aspect de sécurité là-dedans dont je veux parler, parce que bah, c'est important quand même, quoi. Voilà.
Mais concrètement, Handisport, c'est quoi ?
Handisport, du coup, bah, c'est une auto-entreprise, c'est mon auto-entreprise, en fait.
D'accord.
Et donc voilà, c'est l'auto-entreprise à travers laquelle j'accompagne des personnes en situation de handicap avec la natation.
C'est un lieu en particulier ou...
Pas du tout. C'est-à-dire, par exemple, en Bretagne... alors, je peux faire des partenariats quand même. Donc, en Bretagne, bon, parce que je suis breton, j'ai fait un partenariat avec un CESAD, avec un jeune qui avait un trouble du spectre de l'autisme. Il y avait des familles, donc des personnes en situation de handicap ou ayant des TDC. Donc, j'allais leur faire des cours de natation. Alors, où c'est un peu compliqué, c'est qu'on ne peut pas aller comme ça, comme un nageur, faire des cours de natation dans n'importe quelle piscine. Donc, il y avait des partenariats avec certaines piscines. Voilà, je l'ai fait marcher dans le centre pédiatrique aussi, où je travaillais. C'est-à-dire que j'avais mes cours. Et bah, y avait des enfants qui venaient dans le bassin, parce que c'était mon lieu de travail qui autorisait ça. Et je faisais des cours de natation. Mais Handisport, c'est pas vraiment... Enfin, c'est mon auto-entreprise. Mais je vais vous donner un exemple. Je la fais pas du tout dans un but financier, cette auto-entreprise. Je la fais dans un but pour avoir une identité professionnelle. Mais en général, j'ai une activité salariée à côté. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, il y a la semaine dernière, il y a une maman qui m'a appelé, elle est du Gers, c'est dur de trouver des créneaux piscine. Et ben, je lui ai dit, bah, c'est pas grave, vous n'allez pas le faire sous le compte de mon auto-entreprise. Vous allez venir à la piscine et dans un cours entre guillemets normal. Et là, j'ai que deux enfants, donc on fait le cours avec, je ne vais pas citer l'enfant, mais donc c'est un enfant qui a des troubles du spectre de l'autisme et ça s'est très bien passé. Et j'ai vu que le gamin était content. Ce que je veux dire, Handisport, pour moi, c'est mon activité de maître nageur avec des personnes ayant des troubles du neurodéveloppement. Bon, sur le papier, c'est une auto-entreprise, mais voilà, c'est limite, des fois, je peux le faire bénévolement, quoi. Je veux dire, il m'est arrivé pendant le Covid, parce que j'avais le temps, bon, je m'ennuyais, je suis allé à Clermont-Ferrand faire un petit stage de natation avec quelqu'un, quoi. Ça m'a rien rapporté au final. Enfin, ils m'ont quand même payé pour le trajet et tout, vous voyez, mais... Moi, sur le plan financier, ça ne m'a pas apporté grand-chose. C'est-à-dire que Handisport, c'est vraiment ce qui me passionne. Et si l'auto-entreprise, elle ne marche plus, bah, si c'est au travers de DFD ou d'autres choses, ça sera toujours là, quoi.
Quelle est la place du sport dans votre vie ?
Bah, elle est importante. Elle est ambivalente, je dirais. Parce que t'as tout ce qui est foot, tennis, basket... Donc ça, c'est des sports où j'avais pas eu un bon contact avec le monde du sport sur ces sports-là, qui peuvent être des très bons sports, hein, si, mais ça peut avoir... Quand j'étais enfant, ça, c'était pas forcément le truc que j'aimais le plus, quoi. Et à côté de ça, ça a une place énorme, parce que c'est ce qui m'a permis de me valoriser, d'avoir une activité professionnelle qui, en dehors de tout, est important pour manger. de me défouler, de rencontrer des gens, donc c'est une place très très importante. Après, je suis vraiment, moi, sur les sports, pas les sports collectifs, pas parce que j'aime pas le collectif, parce que je suis pas coordonné et que je suis capable de passer le ballon à quelqu'un de l'équipe adverse. Donc là, ça n'a aucun... Et encore, moi, je pars du principe que c'est pas parce que t'es pas doué que tu peux pas prendre plaisir à faire quelque chose. Mais bon, l'être humain étant ce qu'il est, quand tu fais une partie de foot et que tu passes aux équipes adverses ou que tu passes pas ou que tu tires dans tous les sens, donc pour revenir à ça, c'est plus des sports d'endurance, quoi. C'est-à-dire du triathlon, de la natation en eau libre, du semi-marathon, de la natation, bien sûr, voilà. Oui, le sport, pour moi, c'est un peu comme manger et dormir, quoi. C'est-à-dire, ce soir, je prends la voiture et je vais... au club de triathlon de l'île Jourdain, faire un entraînement de course à pied. Ça fait partie de mes besoins vitaux essentiels. Voilà.
Alors, en t'écoutant, on comprend bien que le sport est central dans ton activité comme dans ta vie. Et est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, de manière générale et peut-être un peu plus synthétique, quel bienfait cela apporte aux personnes handicapées, notamment à celles comme toi, atteintes de dyspraxie ?
Ok. Tu veux que je parle que de la dyspraxie ou que je parle...
On en parlera après, je pense.
Tu veux en global ou que je...
En général, pour le moment, oui, tout à fait.
En général, ok. Bah, ça peut, par exemple, si jamais t'as des hypersensibilités, par exemple, le fait d'aller au fond de l'eau, ça va faire que ça va couper tous ces bruits parasites qui vont te perturber. Ça fait que si t'es assez émotif et que t'as besoin de te défouler, là, pour le coup, là, je parle de moi, tu fais une bonne séance de sprint bien violente et ça te sécrète des endorphines et t'es bien plus calme et t'as les idées... Bien plus clair après. Ou alors ça peut être un enfant qui va avoir pour le coup, pour le TDC, c'est une difficulté d'automatiser les gestes. Alors ce qui est intéressant dans la natation, c'est que le geste, c'est vraiment tout le temps le même et qu'on n'a pas à l'adapter comme au foot où tu vois qu'il y a tout qui bouge dans tous les sens. Et ben là, t'as pas à l'adapter parce que c'est tout le temps le même geste. Donc même si t'as des difficultés à automatiser tes gestes, ça va tout le temps être le même, à part la brasse. Alors ça peut être intéressant sur un plan de rééducation, je pense, en termes d'apprentissage de la coordination, mais donc voilà.
C'est plus compliqué la brasse pour vous, en fait.
Ouais, pour moi et pour beaucoup, mais après, je généralise. C'est-à-dire que, en tout cas, des personnes ayant un TDC à qui j'ai fait des cours de natation, où j'avais regardé un petit peu, en faisant mes comptes un peu, parce que j'ai un peu mal avec la compta, mais j'ai regardé un petit peu, il y a une petite centaine... Et ben en fait, ouais, la brasse en global, hein, mais il y en a quelqu'un. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y en a qui vont y arriver alors qu'ils sont dyspraxiques. Il y a des exceptions. C'est pas parce que t'es dyspraxique que tu vas être nul en brasse. Mais bon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça va apporter quelque chose de valorisant et de factuel assez vite. Par exemple, tu pars des petits défis. Moi je sais qu'il y a des jeunes, quand ils n'arrivent pas à faire la longueur au début, quand ils la font, ils sont vraiment fiers d'eux, quoi. Ah, j'ai fait la longueur et tout, donc ça peut avoir un aspect valorisant, donc voilà, un aspect défouloir, parce que voilà, pour apaiser les tensions, un aspect apaisant pour ceux qui sont un peu plus calmes, parce que tu peux aussi nager de pépère et voilà, un aspect sur le plan sensoriel, parce que tu peux aller dans l'eau et te couper de tout. Je pense qu'aussi, comme n'importe quel sport, ça crée des hormones. Alors la natation a quelque chose de très, très intéressant, parce que honnêtement, moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie très, très, très clairement. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça avait, pourquoi en fait. Et il y a des trucs comme ça, par exemple, les endorphines, enfin, tout ce que sécrète le sport aussi, ça te permet d'être dans du bien-être. Et des fois, tu pars du mal à t'endormir. Et tous les sports, faut pas en faire avant de dormir, sauf la natation. Pourquoi ? Parce que la natation, c'est un sport qui se pratique... en fait, le corps est toujours à une température... t'es dans l'eau, donc ça dépasse pas une certaine température, et du coup, c'est un sport que tu peux faire le soir, en fait.
Ah, merci pour ce conseil, c'est vrai que c'est bon à savoir, on ne sait pas trop, effectivement, des fois, si le sport soit faire un début, en fin de journée, merci.
C'est quelque chose qui, par rapport à... Surtout que maintenant, ils baissent les températures dans les piscines, donc c'est nickel. Donc ça... Alors, et puis, bien sûr, sur le plan... Là, je parle surtout... sur le plan des troubles du neurodéveloppement, mais bien entendu que la personne qui avait un AVC, j'avais mis deux frites sous les épaules, une frite au niveau des articulations des jambes, et voilà, je la faisais, elle se déplaçait, ça faisait des balancements. Tout ce qui est balancement aussi, ça peut être pas mal. Tout ce qui est balancement, voilà. Alors là, on est plus dans du bien-être que de l'apprentissage de la natation, mais voilà. Et puis bien évidemment, même si tu as... Je sais pas, moi, une diplégie spastique ou une limitation sur tout ce qui est membre inférieur, dès que tu vas dans l'eau, tout de suite, tu as la portance de l'eau. Donc, tout de suite, tu te sens libre, en fait. Voilà. En fait, ça apporte une espèce de sensation de liberté, en fait. Moi, je vous cache pas que... Et même sur le plan personnel, hein, des fois, quand ça va pas bien, je crie dans l'eau en nageant et ça me défoule de fou, quoi. Donc, c'est un aspect apaisant, défouloir, c'est assez multitâche, en fait.
Vous avez plusieurs casquettes, laquelle préférez-vous ?
Entre quelles casquettes ?
Dans le sport en général ?
J'ai vu que tu étais écrivain aussi ?
Ouais, enfin écrivain.
Sportif toi-même ?
Écrivain, faut pas.
Prof de sport ?
Alors je suis pas prof de sport, je suis éduque sportif, c'est un peu différent. Sportif. La casquette que je préfère, c'est celle, c'est celle que je fais le moins souvent au final. Hein. C'est quand je vais donner des cours de temps en temps à une personne ayant un trouble du neurodéveloppement et qu'elle revient et qu'elle est contente. Là, je suis content. Bah, voilà, c'est celle-là que je préfère. Le reste, bah, c'est accessoire. Quoi, hein. Moi, pour tout vous dire, hein, la compétition, alors j'aime bien la compète, mais c'est plus par défense. Plus pour me faire respecter, pas pour écraser l'autre en fait.
Tu es triathlète, je crois.
J'en fais beaucoup moins. je fais toujours du sport. Mais oui, j'ai fait pas mal de triathlon dans ma vie, ouais. Mais en tant qu'amateur. Hein.
Merci.
Mais de rien.
Pourriez-vous nous donner une définition de la dyspraxie ?
Oula.
Ah, on me rend dans le dur, là.
Je vais prendre mon portable, bouge pas. Donc la dyspraxie, donc, c'est un trouble du neurodéveloppement. Ouais, je parle beaucoup de dyspraxie, mais maintenant on parle de troubles développementaux de la coordination. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte, et ça malheureusement, sur mon histoire perso, je le vis encore et de plus en plus. Enfin voilà. En fait, les dys, on a tendance à les confondre. Et on confond par exemple dyspraxie, dyslexie. Donc non, c'est un trouble développemental de la coordination. Donc pour faire simple, t'as plusieurs sortes de TDC et dyspraxie. Donc moi je parle. T'as idéomotrice, idéatoire, orofaciale. En gros, c'est tout ce qui va toucher l'automatisation des gestes. Donc, en gros, c'est la mémoire procédurale, en fait, donc la mémoire des procédures, enfin voilà, qui est touchée. Et après, t'as des stades, hein, mais ça peut aller de difficulté à tous les gestes, à te laver les dents, à t'habiller, à conduire, à tous les gestes. Et même sur le plan de l'organisation en général, ça a un impact. En plus, une dyspraxie, enfin un trouble du neurodéveloppement, en général, il est jamais seul. Donc, tu as souvent un autre trouble du neurodéveloppement. Hein, qui... Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc on parle beaucoup de la dyslexie, même si voilà, on parle moins de la dyspraxie. Moi, je suis pas touché, mais j'ai eu quelques enfants, bon, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, qui ont ce qui s'appelle une dysphasie, donc un TDL. Donc bah tiens, j'en parle un petit peu d'eux parce que en fait ils sont moins nombreux, donc moins t'es nombreux, moins on parle en fait de. Donc voilà, donc je voulais aussi parler un petit peu des troubles du neurodéveloppement qu'on connaît un petit peu moins. Mais voilà, donc pour revenir à la dyspraxie, c'est ça, c'est une difficulté à automatiser tes gestes et en général ça peut aussi à te repérer dans l'espace. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que je suis arrivé en retard. mais voilà. Donc
Est-ce que j'ai été clair, c'est bon ?
Enfin, j'ai pas fait la définition médicale, quoi. Je l'ai pas.
Tant mieux, c'était plus intéressant d'avoir ton ressenti. Toi.
Comment avez-vous découvert votre handicap ?
Alors, en école d'ergothérapie. En fait, en école d'ergothérapie, j'avais des bonnes notes sur le plan théorique, sur les devoirs sur table. Et même en anatomie, alors que j'ai pas de visualisation, mais j'apprenais tout par cœur. Donc, je captais pas pourquoi était le mieux. Par exemple, le biceps. Faisais la flexion, je captais pas, mais je savais que, j'apprenais par cœur en fait. Je savais pas pourquoi ils faisaient telle fonction, tel muscle, mais j'apprenais tout par cœur, donc je le savais. Au lieu de visualiser le squelette en fait, comme certains le font. Et donc quand il a fallu arriver sur les stages, ça a été un peu compliqué. On va dire ça comme ça. Et puis j'avais des problèmes d'autonomie que je compensais, mais avec, c'était très très dur. Sur le plan de la gestion du quotidien, il y avait déjà une fatigue qui s'installait. Hein. Refaire le linge, plier le linge, faire le ménage, tout ça pour un dyspraxique, c'est compliqué, ça prend de l'énergie. Et là, on a fait un TP pour tester les dyspraxiques, mais en fait, en tant que professionnel, quoi. Et là, les profs ont vu qu'il y avait un problème. Et du coup, ils m'ont envoyé faire des tests dans un hôpital à Paris. Et puis, c'est comme ça que je l'ai su, en fait. Sachant que je compensais tellement bien qu'il y avait déjà une suspicion quand j'étais gamin. Et ils ont... Moi, je suis vieux. C'est-à-dire que je suis une génération où c'était moins connu. Donc, c'était un peu passé à la trappe. Donc, voilà. Donc je l'ai su grâce à mes profs d'ergothérapie à 21 ans, je dirais. Un truc comme ça.
C'est fort, ça veut dire que tu as vécu toute ta scolarité, ton enfance, sans que ni toi ni tes parents vous rendiez compte que tu avais certaines difficultés
Ouais, moi, je subissais le truc, quoi. Et ouais.
Est-ce que ça a été un soulagement d'avoir le diagnostic et puis d'avoir que vos difficultés soient expliquées ainsi ?
Ouais, je pense que c'est mieux ça a été mieux que je sois au courant. Après, c'est toujours à double tranchant, quoi. Après, on va dire, ah, il a ça, bah, je sais pas comment dire, oui. Je vais te dire oui pour me comprendre moi-même. Enfin, c'est un peu dur à encaisser, mais... Enfin, j'ai vu que c'était pas de ma faute, parce que j'étais persuadé que c'est tout, voilà. Donc, là, j'ai arrêté de culpabiliser sur pas mal de choses, quand même. Après, ça m'a aussi dit, c'est un peu... Je me suis dit, je vais pas arriver, enfin... Parce qu'avant, le fait de ne pas savoir, ça m'a permis de tester des trucs que forcément, je ne savais pas que je n'étais pas capable de faire. Je ne suis pas sûr que je suis diagnostiqué, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas sûr que je suis diagnostiqué à 8 ans et que je dise on va faire ménageur. Ils disent ah oui, vas-y, banco, vas-y. Enfin, on y va quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ergothérapeute encore moins, je pense. Du coup, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas se fixer de limites, en fait.
Ah, mais attends, c'est vrai, parce que si tu l'avais su plus tôt, parce que tu serais freiné dans ta vie, que tu n'aurais pas fait tout ce que tu as fait.
J'en sais rien, on n'en sait rien du tout.
Et on ne le saura jamais.
On ne le saura jamais. Je pense que j'aurais fait de la philo, des trucs comme ça. Je pense que... en fait, parce que je suis... Alors, ça n'a rien à voir. Je suis d'une génération où on passait beaucoup le bac S, donc j'ai fait un bac S. Alors, j'ai galéré à le passer mon bac S et je suis tellement fier de l'avoir fait en sachant tout ça maintenant. Franchement, j'ai vraiment galéré. J'ai pas eu d'adaptation sur un bac S général. Hein. Mais franchement, ça a été beaucoup de souffrance et avec le recul, j'aurais fait un bac L, ça aurait peut-être été plus simple.
Et tu l'as eu ?
Ouais, je l'ai eu.
Bravo.
Et nous reprenons donc l'interview avec Julien Darco, coach sportif. Je suis cette fois-ci accompagné par Mehdi. Bonjour Mehdi.
Oui, bonjour.
Salut.
Mohamed.
Bonjour.
Et Arnaud, juste
et
à mes côtés.
Bonjour Jenny.
Alors, on avait arrêté l'interview en parlant de la dyspraxie. Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été le retentissement pour vous de ce diagnostic dans votre vie ?
Bah, tout d'abord, alors c'est là où je parlais de ne pas se mettre de limites. Ça a quand même fait que... j'ai dû arrêter l'ergo. Même si j'y étais arrivé, ça aurait quand même été horrible. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas pu tenir au niveau de la fatigue et tout. Mais ça a quand même, ça a quand même orienté tout le monde vers il faut qu'il arrête l'ergothérapie. Donc bon, ça a eu cet impact-là quand même. Voilà. Parce que c'était. Ça m'a demandé mais une énergie. Enfin là pour le coup, je sais de quoi je parle, vous n'avez même pas idée. Et du coup, le fait d'arrêter, ça a été très très dur au début. Très très dur. Après, ça m'a permis d'être mieux compris. Donc le retentissement, ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'étais pas si autonome que ça. Et c'est un travail que je fais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que bon, je suis là devant vous et tout, mais je progresse tout le temps. Mais là, par exemple, je suis pas... je vous ai parlé des papiers et tout, sur pas mal de choses, même le ménage. Alors, quelqu'un va arriver chez moi maintenant, peut-être pas ce matin parce que j'étais à la bourre. Mais quelqu'un va arriver chez moi et va se dire « Ah, c'est bien rangé et tout », alors qu'en fait, je fais d'une façon très différente. Et du coup, voilà, sur tous ces aspects-là, ça a permis de commencer une rééducation que j'avais jamais eue et qui a quand même été prise très tard. Et c'est comme tout. Alors là, je vais insister pour les jeunes générations, même si je pense qu'Alain a parlé d'Occitadis, sur l'importance du diagnostic précoce, quand même. C'est quand même... même si je vous ai dit que ça m'a pas mis de limite et tout, je pense que c'est quand même mieux si tu peux avoir des aides et une rééducation pour déjà te connaître, savoir ce que tu peux faire, pas faire, ou faire plus difficilement ou moins difficilement. Et du coup, donc ça a eu cet impact d'avoir un peu de rééducation. Enfin, j'ai fait un peu de psychomotricité. À l'ergothérapie, vous doutez bien pourquoi j'en ai pas fait. Parce que je voulais plus de la psychomotricité, parce que c'était c'était trop dur d'arrêter l'ergo pour se faire éduquer par un ergo, j'arrivais pas.
Mais est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation au moment du diagnostic et même encore
ouais.
Ça va ?
Alors non, je suis encore sur... honnêtement, je travaille encore sur moi-même. Après, sur l'impact que ça a eu, par exemple, le permis, j'avais jamais réussi à l'avoir. Et on a su que j'étais dyspraxique, du coup je suis passé en boîte automatique. Et en fait, même en boîte automatique, j'ai galéré, énormément galéré, j'ai dû faire 130 heures de conduite. Et là, aujourd'hui, je pars de Bretagne et j'arrive à Toulouse, quoi. Je roule dans Toulouse, donc c'est un truc que jamais j'aurais pensé faire ça un jour. Et je pense que si j'avais pas eu le diagnostic, c'est probable que je n'ai jamais eu mon permis. Donc voilà, ça a eu quand même, sur la vie quotidienne, ça a eu quand même un impact plutôt positif quand même.
Alors, en quoi la natation se distingue-t-elle des autres sports ?
Ouais, je vais peut-être répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. La natation, elle n'a pas de contraintes. C'est-à-dire que c'est un sport
que tu peux, comme ce que j'ai dit au début, c'est le graal de, pour moi, de l'activité adaptée, que tu peux adapter à peu près n'importe quelle, quelle situation de handicap.
D'accord.
Okay. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant.
D'accord.
Comment vous adaptez-vous aux handicaps de chacun ?
Alors, en général, ce que je fais, alors je fais gaffe à un truc. Le fait d'être TDC moi-même, ça m'apporte une force, je pense, de comprendre certaines choses. Mais il faut faire gaffe à pas faire. Alors, je déteste la psychanalyse, hein, mais une sorte de transfert, c'est-à-dire un transfert dans le sens où se dire qu'on est tous différents, que c'est pas parce que t'as tel handicap ou la même situation de handicap que l'autre personne que la personne va pas pouvoir faire quelque chose que t'arrives pas et l'inverse. Donc déjà, en général, ce que je fais, comme c'est pas quelque chose, comme je vous ai dit, qui a but lucratif, tout ça, en général, je rencontre les gens avant, dans les cafés. J'adore boire des cafés, j'en bois même peut-être un peu trop. Et du coup, je les rencontre, en fait, au début, pour un peu savoir à qui j'ai affaire, dans le sens où la personnalité, la situation de handicap, ce qu'il veut pas, etc. Pour avoir une petite idée de, voilà, des besoins de la personne. Et après, on fait une séance, et puis voilà. Puis après, je demande souvent les retours aussi.
Et de par votre handicap et votre pratique du sport, nous souhaiterions savoir quel est le ressenti de votre corps pendant ces actions.
Je vais changer un peu de sujet. Alors moi, ça peut en servir quelqu'un. J'ai commencé à faire du théâtre là, pour d'autres raisons.
J'en fais également.
et je me suis rendu compte qu'en fait, mon corps, c'était pas du tout ça. C'est-à-dire que je croyais que ouais. Et en fait. Bah ça fait que contrairement au foot, ça fait un peu je me sens puissant. C'est-à-dire que par exemple quand je vais faire du papillon, ou j'adore la sensation que c'est de nager. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de critiques dans le milieu de la natation parce que on dit qu'en gros je suis un bourrin. Parce que en fait je suis pas très technique. Enfin, vous allez me voir nager, ça va, hein, ça va pas du tout vous choquer, mais sur un nageur de compétition, etc. Mmh. Avec la dyspraxie, même si je nage un peu, au moins deux fois par semaine, il y a quand même des défauts techniques qui vont se voir. Mais en dehors de ça, au niveau du corps, ça fait que il y a cette dépense d'énergie, parce qu'en fait, t'encaisses, et moi, ça permet de décharger les tensions du corps d'un coup, en fait. D'accord. Donc, ça a une dimension de décharge et après d'apaisement, en fait. Donc, sur le corps. Et puis ça peut aussi, enfin ça permet de, et ça je pense que c'est pour pas mal de monde, de visualiser ton corps. Quand tu le visualises pas bien, le fait d'avoir l'eau en intégralité sur ton corps, ça te permet de le ressentir partout, parce que t'as quelque chose qui touche ton corps dans l'ensemble.
Tu te rencontres en fait.
T'as conscience de la totalité de ton corps en fait. Ouais. Donc du coup ça a quelque chose de, tu sais où sont tes membres, alors que moi perso des fois... donc tu sais, tu vois ce que je veux dire, enfin je sais, oui. Pas ça a une dimension englobante, voilà, purée, c'est ça que je cherchais. Du corps.
Alors vous nous avez parlé tout à l'heure du théâtre que vous en faisiez, est-ce que vous avez d'autres hobbies également?
Alors le théâtre je l'ai fait, non c'est pas un hobby, hein, je viens de commencer, non sinon des hobbies, j'aime bien écrire. D'accord. J'aime bien la poésie et j'aime bien le cinéma aussi,
et je fais du trombone
mais je suis particulièrement nul, voilà. Ah. Mais c'est quelque chose que j'aime, comme je vous dis là, c'est quelque chose que, c'est pas parce que t'es, enfin nul, voilà, enfin, ce que je veux dire c'est que c'est quelque chose où je suis pas forcément doué mais que j'aime bien pratiquer.
Le trombone, alors ça c'est vraiment un instrument.
Ouais. Oui c'est vrai qu'on en entend pas forcément parler jamais. Tous les jours, ouais.
Ouais, et j'ai dû arrêter à cause de mes voisins, genre. Et c'est vrai en plus. En fait pour tout vous dire, j'hésitais entre le trombone et le théâtre, j'ai fait une heure de trombone, j'ai dû choisir le théâtre, voilà.
Pour quelle raison? Parce que vous étiez, c'est plus dynamique,
Non, parce que ça fait du bruit et qu'ils entendaient. Et que, comme je suis pas Mozart, c'est trop compliqué.
Quels sont vos projets personnels et professionnels?
Waouh. Pour l'instant, je sais pas trop. Je suis dans une période un peu, voilà, où je me pose des questions. Après, sur ce que je veux pas enlever, d'une manière ou d'une autre. Que ça soit bénévolement, à travers l'autre entreprise, je veux continuer à accompagner des personnes en situation de handicap avec la natation, sous quelque forme que ce soit. Après, sur le plan vraiment purement professionnel, alors ça peut changer. Actuellement, j'ai passé un cours de la fonction publique, donc j'aimerais être titularisé à côté, enfin continuer ce que je fais, hein, mais être éducateur sportif pour les collectivités. D'accord. Donc voilà, j'ai passé un concours en ce sens. Mais là, c'est vraiment sur l'aspect professionnel, en dehors de mon activité d'auto-entrepreneur à côté. Et voilà, sinon, c'est peut-être avoir une vie de famille, je sais pas. Peut-être me poser un peu, en fait. Parce que là, on dit que je fais plein de trucs, mais au final, là, je suis peut-être sur une phase... un peu penser à moi aussi, dans le sens où me poser, quoi. Me poser, mais... Surtout pas enlever, en faire peut-être un peu moins, mais pas enlever l'accompagnement des personnes. Et même aider les personnes en situation de handicap, bon, le TDC, même en situation de handicap invisible en général, enfin continuer à évoquer ça, parce que je pense que les consciences sont loin d'être évoluées sur ce sujet. Et je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une vocation dans le sens où faire prendre conscience aux gens ce que c'est que de vivre avec un handicap invisible. Et voir un peu au-delà des apparences, d'un sens comme de l'autre, c'est-à-dire sur l'engagement associatif, en fait toujours faire un peu ce que je fais, mais essayer de doser, bien doser, quoi, ce qui est un peu difficile, en fait. Voilà, c'est-à-dire que je veux faire plein de trucs et puis d'un côté je m'écroulais, quoi, parce que j'aurais trop fait. Donc donc pour répondre, encore je suis encore fouillé dans mes réponses, mais voilà, trouver une situation stable tout en continuant quand même ce que je fais. Et puis, j'aime bien écrire. C'est-à-dire, j'aime bien, même si c'est sur des sujets, les deux livres que j'ai écrits, donc le deuxième était sur la natation. C'est vraiment, le premier c'est sur la dyspraxie, le deuxième sur la natation, mais c'est le côté, le défi de l'écriture qui me plaît, en fait. Défi de réussir à, voilà.
Donc, parle-nous-en. Un petit peu de ce que tu écris. Parle-nous déjà d'un des sujets, celui qui te marque le plus, quoi.
Dans ce que je lis ou dans ce que j'écris ?
Non, dans ce que tu écris.
En fait, donc le premier bouquin, je l'avais fait pour sensibiliser et parler. On est toujours sur la même chose, en fait, pour montrer que ce que c'est que la dyspraxie ou le TDC, ce que j'essaie de l'intérieur. Mmh. Là, c'était vraiment un but de sensibilisation et de montrer aux autres qu'ils ne sont pas tout seuls. Parce que je suis persuadé qu'il y a plein de personnes TDC qui ne savent pas qu'ils sont TDC, qui sont peut-être à la cataloguée de fous, je parle un peu cash des fois, mais péter des watts parce qu'ils ne sont pas compris. Et ça peut être sur d'autres handicaps invisibles. Que les personnes et les familles qui lisent ce premier bouquin, à travers l'écriture, aider des gens et leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls. Et honnêtement, créer, leur donner à eux aussi l'envie d'écrire et de partager ce qu'ils ressentent. Même si c'est quand même compliqué d'écrire un livre, je ne cache pas que j'y galère. Mais je veux dire, le fait de faire ça, c'est, je trouve ça génial, en fait. Qu'entre nous, on montrait un peu à tout le monde que voilà ce que c'est que de vivre ça, et moi aussi regarde ce que c'est, enfin voilà, créer une espèce d'effet domino en faisant ça. Donc il y a ce que j'ai dans, en fait c'est le partage dans l'écriture que j'aime bien faire, tu vois. Alors ce qui est assez marrant, c'est que après moi j'aime, comme je vous dis, j'aime beaucoup écrire la poésie. Alors moi j'aurais bien aimé publier de la poésie, des trucs comme ça.
D'accord.
Et c'est super chaud de publier de la poésie.
Très bien.
Peut-être que je suis nul, hein. Mais
essayer.
Ah mais j'ai essayé, vous pouvez me croire. Mais mais en tout cas j'adore lire et écrire de la poésie aussi. Donc
ouais, mais au moins tu as ces capacités là, donc tu peux t'en aider.
Ouais, après c'est comme tout, hein, ça peut aussi écrire de la poésie même pour soi, c'est bien. Enfin, oui. ça permet, c'est un moyen comme un autre de s'exprimer. Donc voilà, donc l'écriture, c'est à la fois laborieux et quand t'arrives à écrire un truc, et t'es content à la fin, quoi. Après, honnêtement, j'aurais aimé écrire sur d'autres choses que... Parce que ces sujets-là, pourquoi j'ai réussi à écrire ? Parce que ça touche du monde. Mais, et c'est très bien. Mais changer de sujet, écrire quelque chose sur d'autres sujets, ça m'aurait plu, mais...
Quel genre de sujet, par exemple ?
Je sais pas. De la poésie. De la poésie ou de la fiction. Bon, la fiction, c'est... Je pense pas que j'ai les capacités de le faire. mais voilà, en tout cas, dans mes hobbies, il y a ça. Écrire, c'est bien.
Et j'ai une question très importante. Que penses-tu de ton passage dans Café & Co ?
Moi, j'aime beaucoup ce genre de lieu. Mais pour répondre à ta question,
oui.
Je trouve ça très, très, très intéressant. Honnêtement, c'est ce que je me représentais. Bon, j'en ai entendu parler du café Anko, et je voulais quand même y aller au moins une fois. Et non, je trouve que c'est des initiatives vraiment concrètes et vraiment, enfin, c'est vraiment très bien. Et je pense que là, je parle au nom de tout le monde autour de la table, en fait. Je sais pas, vous pouvez me contredire, hein, mais je trouve que quand t'as des situations de handicap qui se voient et où là t'es catégorisé, ou qui se voient pas et où là t'es pas compris, c'est bien d'être dans des lieux comme ça, je dirais de répit, où tu te sens accepté et où tu peux être toi-même. Parce que le problème quand on a des situations comme les nôtres, là je parle en global, c'est que c'est souvent difficile d'être soi-même. C'est-à-dire que soit tu vas cacher tes difficultés de peur à ce qu'on se moque de toi, ou qu'on te juge, ou qu'on te dise ah, il est incompétent là-dessus, ou tu vas pas, donc tu vas toujours être sur le qui-vive, toujours, et avoir des lieux comme ça où, au fait, tu peux être toi-même et tu te sens pas jugé. Je pense que pour beaucoup de personnes dans nos ayant des situations de handicap, quelles qu'elles soient, je pense que c'est très important. Donc c'est un lieu comme ça, donc je suis vraiment content de d'être venu quoi. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup Julien Derco, donc d'être venu parmi nous et de nous avoir.
Et puis merci de m'avoir invité quand même.
Voilà. vraiment merci.
Merci. C'était vraiment très intéressant et. Ouais. Je pense que des auditeurs se reconnaîtront sur pas mal de choses qui ont été traitées aujourd'hui.
Et puis merci à Lucas et à sa maman.
Je remercie également tous les autres chroniqueurs qui étaient à table autour de moi. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine interview.
À plus tard.
À plus.